Panorama.
Panorama.
Après le rachat de Marianne et de plusieurs titres et radios appartenant au groupe Lagardère en France, le milliardaire tchèque Daniel Kshetinsky s'attaque à l'un des fleurons de la presse française, Le Monde. Cinquième fortune de République tchèque et à la tête d'un important groupe énergétique et médiatique, celui qui est également copropriétaire du club du Sparta Prague, est actuellement en négociation avec Mathieu Pigas, l'un des actionnaires majoritaires du journal Le Monde, pour acheter des parts du quotidien du soir. Quelle est la stratégie de Daniel Kshetinsky alors qu'en République tchèque, le Premier ministre Andrej Babiš est fréquemment accusé d'ingérence dans le contenu des deux grands quotidiens nationaux dont son groupe est propriétaire? Faut-il craindre la même chose de la part de Daniel Kshetinsky? Autant de questions que Radio Prague a posées à Robert Bjestian, rédacteur en chef de hlidatsipes.org. Ce site, dont le titre peut être traduit comme « Chien de garde », est un média d'investigation qui s'intéresse entre autres à la mainmise de la presse tchèque par des hommes d'affaires et politiques, notamment Andrej Babiš. Anna Kubišta lui a demandé comment il s'expliquait cet intérêt soudain de Daniel Kshetinsky pour la presse française.
Daniel Kshetinsky est francophile, marat français.
Daniel Kshetinsky est francophile et il aime bien la France. Néanmoins, cet intérêt pour les médias français ne découle pas uniquement de cette appétence personnelle. Kshetinsky est un homme d'affaires aguerri et il ne fait sûrement pas les choses sans raison. Il a d'importants intérêts commerciaux en dehors de la République tchèque, comme en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Il a besoin de suivre les réglementations de la Commission européenne et ce qui se passe au Parlement européen. Je pense que posséder de grands médias français influents peut l'y aider. C'est donc un choix tout à fait rationnel de son côté et la suite logique des acquisitions de médias faites en République tchèque.
Ce sont en effet des titres influents, notamment dans le cas du Monde, mais on sait aussi que la presse occidentale n'est pas au mieux de sa forme. Pourquoi donc racheter ou s'intéresser à des titres traditionnels de la presse ancienne? N'est-ce pas courir le risque de faire des acquisitions peu rentables?
C'est vrai que c'est une tendance mondiale et la France n'est pas épargnée. La presse classique, la presse papier, voit ses ventes continuellement baisser et lutte pour sa survie financière. D'un autre côté, quand on regarde la situation en République tchèque, on voit que de riches hommes d'affaires, que ce soit Andrej Babiš, le groupe Penta ou justement Daniel Kshetinsky, achètent des médias. Et ce, pas tant pour faire du chiffre que pour leur pouvoir d'influence. Les gens du groupe Penta l'ont très bien exprimé. Ils s'achètent une mallette nucléaire pour bénéficier d'une sorte de force de dissuasion mutuelle. Je pense donc que cette acquisition en France est en partie motivée par cela. Après, je ne pense pas que Daniel Kshetinsky veuille influencer directement les médias qu'il achète. Il ne se le permettrait pas et surtout les médias eux-mêmes n'accepteraient jamais une quelconque ingérence. Néanmoins, le fait qu'il soit déjà propriétaire d'autres médias peut être très utile pour lui en termes de négociations d'affaires ou de lobbying au niveau européen.
Dès l'annonce mercredi soir des négociations de Daniel Kshetinsky avec l'actionnaire principal du Monde, Mathieu Pigas, pour lui racheter des parts, le pôle d'indépendance du quotidien a publié un communiqué demandant à Daniel Kshetinsky, je cite, d'éclaircir ses intentions et de fournir les garanties indispensables du respect des valeurs et règles d'indépendance qui régissent l'ensemble des titres du groupe Le Monde. Fin de citation. Déjà en mars dernier, le rachat de titres du groupe Lagardère, dont Marianne avait suscité l'inquiétude des syndicats. Est-ce que vous comprenez ces inquiétudes? Sont-elles justifiées? Et à votre connaissance, y a-t-il eu par le passé des tentatives d'influencer le contenu des titres qu'il possède en République tchèque?
Je comprends les inquiétudes de mes collègues français, ne serait-ce que parce que cela est perçu comme l'arrivée de quelqu'un venant de l'Est, et c'est une référence assez péjorative et suspecte. C'est comme si un oligarque russe venait acheter un grand journal tchèque. Je pense que Daniel Kshetinsky n'est pas un oligarque russe, c'est une personne cultivée, une personne qui a fait fortune de manière relativement transparente. Ensuite, Dans quelle mesure doit-on craindre une intervention dans le contenu? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Je n'ai pas observé de pression dans les maisons d'édition qu'il possède en République tchèque et je n'ai pas eu d'écho de ce genre de la part de mes collègues travaillant pour lui. Personne ne s'est plaint d'intervention du type de celle que peut faire Andrei Babiš, par exemple. Après, il reste possible que cela se fasse par d'autres biais. Ce qui est important, ce n'est pas seulement ce qui s'écrit, mais aussi ce qui ne s'écrit pas. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile à décrypter.
Robert Břešťan, vous entendez des problèmes d'autocensure ?
C'est aussi possible, en effet, mais cette théorie de la mallette nucléaire, de la dissuasion mutuelle, signifie aussi que les différents médias ne critiquent pas forcément les propriétaires des médias concurrents. Il faudrait faire une analyse de fond dans ce sens, mais je pense qu'on découvrirait par exemple que le nombre de voix critiques vis-à-vis du groupe énergétique EPH, qui est la propriété de Daniel Křetínský, dans les médias détenus par Andrej Babiš, et inversement, les voix critiques dans les titres de Daniel Křetínský vis-à-vis d'Andrej Babiš n'est pas très élevée. On pourrait dire la même chose à propos du groupe Penta et de ses quotidiens. La mallette atomique issue de la guerre froide est une métaphore tout à fait pertinente. Pourquoi ? Parce que ces hommes d'affaires se bloquent mutuellement, comme aux échecs, et en même temps, ils ne se nuisent pas les uns aux autres au travers de leurs titres.
Récemment, Daniel Křetínský a exprimé sa vision de la presse et des médias lors d'une conférence en Slovaquie, le Globsec Tatra Summit, ce qui lui a d'ailleurs valu un tweet de compliment de la part de la commissaire européenne à la concurrence. Il a critiqué les géants numériques comme Google ou Facebook et estimé qu'en laissant Internet fournir l'essentiel des informations, nous étions en train d'éduquer une génération d'ignares en matière de politique. Il s'est également dit partisan des médias traditionnels, pilier de la démocratie en Europe, dit-il. C'est une profession de foi intéressante au regard des négociations actuelles. Est-ce sincère selon vous ?
Je pense que c'est sincère. Au vu de son expansion actuelle en France, on peut rétrospectivement interpréter cela comme un message adressé aux Français également. Voilà une première théorie. La seconde théorie, c'est que Daniel Křetínský et son entourage ont effectivement et activement fait du lobbying au Parlement européen contre Google, contre Facebook, contre la fameuse directive qui a été débattue. Daniel Křetínský a beaucoup fait pression pour que Google et Facebook commencent à payer le contenu qu'ils utilisent et dont ils ne sont pas les auteurs. De son point de vue, c'est clairement une démarche pertinente en termes de business. En tant que propriétaire de maison d'édition, il perd sans aucun doute beaucoup d'argent. Donc, ses efforts pour soutenir des médias traditionnels contre des géants technologiques comme Google et Facebook ne sont pas, selon moi, le résultat d'un calcul. C'est plutôt une démarche pertinente en termes de business et de société.
Právní, biznisový a možná i společenský přístup.